Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication. Tout d'abord, le premier texte qui sera dans Jacques, au chapitre 5, des versets 13 à 18. Jacques 5, des versets 13 à 18. Et pour ceux qui ont la même Bible que moi, c'est la page 261. Donc la petite colonne bleue, page 261. Jacques chapitre 5, des versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ensuite, nous basculons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, au chapitre 14. Lévitique 14, et puis nous commencerons avec les deux premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur. » Toujours dans le chapitre 14, nous passons des versets 14 à 20. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et l'en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur accomplira le sacrifice pour le péché. Il fera pour celui qui se purifie l'expiation de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. Le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. Et maintenant, nous basculons dans l'évangile de Marc, au chapitre 6. Donc Marc, chapitre 6, où nous lirons les versets 7, 12 et 13. Marc 6, les versets 7, 12 et 13. Alors il appela les 12 et se mit à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient.
Quelqu'un parmi vous désire-t-il comprendre la parole de Dieu ? Qu'il prie. C'est ce que nous allons faire. Éternel, nous désirons que ta parole pénètre nos cœurs, non pas juste pour une connaissance supplémentaire, mais pour une relation renouvelée avec toi, et que nous puissions, Seigneur, ensemble, en communauté aussi, progresser dans ces liens qui nous unissent. Te prions pour tous ceux qui sont aussi dans d'autres cultes ce matin, ceux qui sont avec nous en pensée, que tu puisses aussi être avec eux et toucher leur cœur. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin de la lettre de Jacques, écrite aux 12 tribus dans la dispersion. Et on a vu déjà plusieurs parties. Alors, je vais juste rappeler les parties, je ne vais pas rappeler toutes les prédications. Il y en a déjà eu 17, donc ça fait déjà quelques fois qu'on étudie ce texte. Mais les grandes parties, nous avons vu au début la maturité chrétienne, la foi dans l'épreuve et la tentation. C'est le début du livre de Jacques. Ensuite, nous avons vu que la mise en pratique démontre la foi. Plusieurs éléments qui ont été étudiés. Hein. Vous vous rappelez peut-être que le fait d'être lent à la colère fait partie d'un cheminement dans la pratique de la foi. Mettre la parole de Dieu en pratique, avoir une foi vivante et non une foi morte, la maîtrise de la langue, etc. C'est toutes des choses qu'on avait vues dans cette partie-là. Et ensuite, nous avions fait une partie sur l'artillerie ancrée dans la foi qu'ont divers mots. Peut-être vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait la dernière fois avec le dernier élément. On a parlé de médisance, arrogance, avarice, impatience et corruption, contre lesquels nous pouvons combattre par la foi avec des outils que Jacques nous donne dans son épître. Et nous arrivons à la quatrième partie que j'ai intitulée « Prendre soin par la foi ». Donc c'est les derniers versets, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Et nous aurons donc deux prédications sur ce sujet. Je dois vous avouer que en préparant celle-ci, je me dis j'aurais dû en faire quatre pour cette partie ici. Mais voilà, on en fera une, donc on verra ce qu'on peut voir ensemble. Et aujourd'hui, donc, on va parler de manifester votre foi en priant. Manifester votre foi en priant. En fait, Jacques a déjà parlé de la prière dans sa lettre, en fait, mais sans toutefois mentionner le mot prière. Il avait dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande, faut vous rappeler. Donc il avait déjà cette notion de prière, mais il ne l'a pas mentionné jusqu'ici, jusqu'au verset 13 du chapitre 5. Et là, tous les versets qui suivent, il y a le mot prière qui revient à la prière. Donc c'est vraiment le centre de ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, ensemble. Et Jacques, comme dans le reste de sa lettre, on a déjà vu ça, passe un petit peu d'un sujet à l'autre comme un domino. Donc il prend un sujet, qui lui fait penser à un autre sujet, qui lui fait penser à un autre sujet, etc. Peut-être qu'il y a un mot qui vient, il dit « Ah, puis il faut que j'explique encore ceci ». Bon, on n'y échappe pas aujourd'hui, c'est la même chose dans ce texte. Nous avons aussi ce développement à domino. Donc il commence par le sujet de la souffrance, verset 13 du chapitre 5, donc je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes, dans le chapitre 5 de Jacques. Donc là, il commence par parler du sujet de la souffrance qu'il a déjà abordé au début de la lettre de Jacques. Peut-être vous vous souvenez, mes frères, souvenez-vous comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous allez rencontrer. Un petit peu bizarre, la joie dans les épreuves. Enfin, on avait un petit peu vu tout ça ensemble. Et puis ici, il reprend la notion de la souffrance et de la joie. On retrouve les deux éléments. Et il veut nous indiquer un réflexe à avoir, en fait, en toutes circonstances. Et le réflexe à avoir, c'est prie. Vous avez compris ? Prie. Vous êtes dans la souffrance ? Que celui qui est dans la souffrance, prie. Vous êtes dans la joie ? Prie en chantant. C'est vrai, il parle du chant. Dans la maladie, demande que l'on prie. Face au péché, prie les uns avec les autres. Et nous arrivons au verset 16, la deuxième partie du verset 16, qui est le centre ici, qui dit « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et pour d'ailleurs appuyer ce sujet central, verset 16, il donne une illustration de l'Ancien Testament. Élie. Bon, son illustration, elle est quand même un peu étrange. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi je la trouve un peu étrange. Parce que si je vais lire dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Vous verrez qu'on ne voit pas beaucoup Élie prier dans ces moments-là. Chapitre 17, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Point. Puis ensuite, il est parti. Puis ensuite, 1 Roi 18, verset 1. « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. » La troisième année en ces termes, va te présenter devant Akab, j'enverrai la pluie sur la surface du sol. Ben, il n'y a aucune mention de prière d'Élie mentionnée ici, qui indiquerait que c'est lui qui a initié ce qui allait arriver par sa prière. Alors Élie, si vous me permettez l'expression, est puissant en prière. Hein, on l'a vu quand il a prié pour le fils de la veuve chez qui il était, qui était mort. Il a prié et Dieu a ressuscité cet enfant. Et c'est un fait qui ne s'était pas produit avant. Donc il ne peut pas dire, ah, ça s'est passé. Élisée, après, ben, il avait l'exemple d'Élie, disons. Mais Élie, ben, ça ne s'était pas passé avant. Donc c'est vrai que c'est très fort. Ou encore au Mont Carmel, où il priait et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ? Le feu descend du ciel. Mais Jacques, qui nous parle de prière, ne prend pas ces exemples. Peut-être qu'il a aussi en tête ces éléments. Quand il dit Élie, ben, il y a ces histoires qui peuvent venir, c'est juste, c'est vrai. Mais Jacques nous dit que Élie a prié avec instance qu'il ne pleuve pas. Alors, nous croyons que c'est une réalité, que c'est vrai que Élie a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Parce que tout ce que la Bible dit est vrai, elle est inspirée du Saint-Esprit qui était avec Élie et avec Jacques. Donc comme il était aux deux moments, ben, si Jacques dit quelque chose inspiré par le Saint-Esprit, ben, c'est ce qui s'est passé du temps d'Élie où le Saint-Esprit était présent. Mais ça, nous ne le voyons pas dans le texte de l'Ancien Testament. Alors, il y a bien une allusion, c'est vrai, après le Mont Carmel, quand on voit Élie qui est recourbé sur lui-même avant que la pluie vienne, qui semble qu'il est en train de prier. C'est pas très clair, oui, on peut peut-être voir, mais c'est en fait quelque chose qui vient après que Dieu ait dit « il va pleuvoir ». Ce n'est pas sur l'initiative d'Élie que Dieu arrête la pluie ou fait pleuvoir. Par contre, Élie entre dans la volonté de Dieu et prie pour que cela arrive. Ça fait penser aussi à Daniel. Hein. Vous connaissez le prophète Daniel qui a lu de ce que Jérémie avait écrit et il dit, bah, après 70 ans d'exil, 70 ans, c'était pas mal avant, t'as fait les 90 là, après 70 ans d'exil, eh bien, le peuple allait rentrer en fait. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Et Dieu entend la prière de Daniel. Mais ce n'est pas l'intercession de Daniel qui, tout à coup, va faire penser à Dieu. « Ah oui, il faudrait que je les renvoie. » Ou « Ah ben maintenant, c'est vrai que c'est un bon moment. » Non, c'était déjà dans sa volonté. Alors j'aimerais qu'on comprenne ici que Jacques n'a pas pris l'exemple d'Élie pour nous faire croire qu'on peut changer les plans de Dieu, mais plutôt que c'est en priant selon la volonté révélée de Dieu que nous entrons dans la prière encouragée par Jacques, en fait. C'est important pour le reste de tout ce qu'on va voir ce matin. Donc Jacques n'a pas pris l'exemple d'Élie pour nous faire croire qu'on peut changer les plans de Dieu, mais plutôt que c'est en priant selon la volonté révélée de Dieu que nous entrons dans la prière encouragée par Jacques. Alors avec cette petite introduction, j'espère que vous avez compris que Jacques a comme point de focalisation la prière. Et le reste en fait c'est des éléments qui sont reliés à la prière tout du long. Nous aurons donc un point qui s'intitulera « Manifestez votre foi en priant de manière agissante et en étant juste ». Bon, ça, c'est un long titre. Hein. Eh bien, ça sera le dernier point. Parce qu'en fait, comme ça, on va repartir avec ça. Souvent, c'est le dernier point qui résonne à la fin. Donc, je l'ai dit aussi, là, on va le faire résonner à la fin. Et puis, on va reprendre depuis le début du passage au verset 13 qui nous indique en fait que nous sommes appelés à prier en toute circonstances, dans les moments difficiles comme dans les moments plus heureux. Nous sommes d'ailleurs personnellement appelés à prier. C'est pour ça que j'intitule cette première partie « Manifestez votre foi en priant personnellement ». Ensuite, nous parlerons de la prière pour les malades, aussi appelée « prière des anciens » ou « onction d'huile ». En fait, c'est le seul texte dans le Nouveau Testament qui parle de faire appel aux anciens pour une prière avec onction d'huile au nom du Seigneur. Il n'y a pas d'autre texte. Le seul autre texte où on parle d'huile avec des guérisons, c'est dans Marc, on l'a lu. C'est tout. Et puis là, c'est les disciples qui avaient été envoyés par Jésus deux par deux, et c'était du temps apostolique. Donc, si je ne prends pas un peu de temps pour en parler aujourd'hui, ben, on n'en parlera pas dans d'autres textes. Donc, je prendrai un peu de temps pour parler de ce sujet aujourd'hui. Et ça sera un point un petit peu plus long. Et il aura pour titre « Manifestez votre foi en demandant de prier pour vous ». Ensuite, comme Jacques aborde aussi le sujet, nous réfléchirons courtement au sujet de la confession des péchés et la prière les uns pour les autres. Ce point s'intitulera « Manifestez votre foi en priant pour les autres ». Donc ça fait prière personnelle, demande de prière pour nous, prière pour les autres, et puis ensuite cette foi agissante hein, qui va vivre la prière. C'est un peu le menu de ce matin. Ça va ? Ok, donc reprenons le verset 13, lisons-le ensemble, et puis on va un petit peu y réfléchir. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Voilà pour ce premier passage. Alors, est-ce que vous avez déjà souffert ? Je pense qu'il y a peu de monde qui ont jamais souffert. Après, il y a des souffrances plus profondes que d'autres, c'est vrai. Donc, vous comprendrez que dès que les douleurs arrivent ou la souffrance arrive, nous avons un réflexe généralement, qui souvent, en fait, arrive très rapidement et fortement, c'est le repli sur soi. Quand on est dans la douleur, c'est comme un système de défense, de protection. Et l'Éternel nous connaît, il nous a fait. Il nous connaît mieux même que nous-mêmes, et il sait ce dont nous avons besoin. Et il sait que dans la souffrance, nous avons besoin de nous détourner de nous-mêmes pour nous tourner vers lui. C'est pour ça qu'il parle de la prière. Particulièrement dans la souffrance. Le psaume 50, d'ailleurs, nous y invite. Psaume 50, verset 15, c'est un verset que vous avez peut-être même par cœur. Vous n'avez peut-être pas l'adresse, mais vous connaissez. C'est « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Jacques, qui nous a parlé de foi tout au long de sa lettre, continue à nous pousser à utiliser la foi vivante. Une foi vivante, c'est notre mode de vie, notre mode de survie en tant que chrétien, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a vécu à chaque instant. Qu'est-ce que Jésus a fait à chaque fois qu'il est entré dans un temps de souffrance ? Je peux vous le faire, hein ? Sur les genoux. Enfin, je ne l'ai pas vu. Mais il priait. Il priait. Voilà pourquoi il est si important de prier lorsque nous souffrons. Cela nous détourne de nous-mêmes pour chercher auprès de Dieu notre secours. Dans la souffrance, on n'aura pas un secours en nous-mêmes. C'est auprès de Dieu. Voilà pourquoi il est si important de prier lorsque nous souffrons. Cela nous détourne de nous-mêmes pour chercher notre secours auprès de Dieu. C'est d'ailleurs de toute façon toujours de lui que vient le soulagement. Quel que soit le moyen qu'il va utiliser, ça c'est important de comprendre. Si vous êtes découragé et que vous recevez un mot d'encouragement, mais ça vient de lui en fait, qui a envoyé un agent, votre frère, sœur en Christ, qui vous donne un encouragement. Mais ça vient de lui en fait. Cela peut être un médicament qui diminue ou arrête momentanément les douleurs. C'est encore Dieu qui agit par ce moyen. Ou encore simplement sa manifestation qui nous rassure dans des moments plus difficiles. Ou encore le soulagement d'une conscience souffrante lorsqu'elle se repent et reçoit le pardon. Ça vient de Dieu. Vous savez, prier, c'est, j'aime bien dire, la respiration de l'âme. Prier, c'est la respiration de l'âme qui a particulièrement besoin d'oxygène lors de la souffrance, en fait. Prier, c'est la respiration de l'âme qui a particulièrement besoin d'oxygène lors de la souffrance. Mais, par la grâce de Dieu, nous ne faisons pas que souffrir dans nos vies. Il y a aussi des moments, on pourrait dire, de relâche. Même si la souffrance, on pourrait dire, c'est notre état normal dans notre monde anormal d'après la chute. Mais dans sa grâce, il nous donne des moments de répit, des moments de joie, parfois même, et ça c'est étonnant, dans nos souffrances. Ceux qui l'ont vécu le savent.
C'est des choses qui arrivent.
Là aussi, la prière est la clé. Mais ici, la prière est chantée. Il est parlé de psalmodie, cette notion en fait de célébrer les louanges de Dieu par le chant. Louer Dieu nous permet de comprendre que nous avons reçu ce que nous vivons d'heureux aussi, que cela nous vient de Dieu. Et qu'en fait, être heureux en Dieu, en louant Dieu, c'est là qu'on est le mieux, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est la meilleure joie, si vous voulez. C'est cette joie qu'on vit avec Dieu, en Dieu. Et puis, vous savez, chanter, en principe, ce n'est pas silencieux. Le chant, en fait, va encourager ceux qui sont autour de nous. Et cela encourage les autres. Donc celui qui est dans la joie, on pourrait dire, a l'énergie de le faire et les autres en bénéficient. Donc si dans ce monde anormal depuis la chute, il est normal de souffrir, lorsque nous avons la grâce de bien aller, c'est en fait pour encourager, fortifier ceux qui sont dans la difficulté. Et combien de fois un chant ne nous a-t-il pas encouragé, porté, renouvelé ou même guidé? Et surtout lorsque nous entendons des louanges qui nous guident vers Dieu. Nous vivons tous en fait des moments difficiles et des moments paisibles. Et parfois nous souffrons, parfois nous sommes dans la joie, parfois les deux en même temps. Et dans tous ces états en fait, nous vivons, et c'est ce que Jacques nous dit, avec un esprit de prière. Quelqu'un est-il ? Qu'il prie, quelqu'un est-il qu'il chante. Après, on continuera le reste. Et ça, ça nous fait penser à Paul qui nous dit un verset, si vous voulez apprendre des versets bibliques très courts, ça c'est un verset en trois mots, dans 1 Thessaloniciens 5:17, qui dit « Priez sans cesse ». C'est une attitude en fait, une attitude de vie, un état d'esprit qui nous permet en fait de nous arrêter à tout instant et de prier ou de chanter selon la situation. Il y a des moments où vous n'arriverez pas forcément à chanter. Quand on souffre, on a de la peine à chanter, mais on peut prier. Et ça, c'est une attitude. C'est aussi un bon test pour savoir où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. En fait, à tout moment, on devrait pouvoir s'arrêter et soit chanter, soit prier. Ça fait partie de notre cheminement avec Dieu. Et c'est bon parce qu'en fait, les deux choses, on peut les faire parce qu'il nous accueille à tout moment. Mais il arrive parfois que nous n'arrivons plus à prier ou à chanter personnellement. C'est plus difficile et notre Créateur le sait bien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a inspiré les versets 14 et 15 de Jacques. C'est manifester notre foi en demandant de prier pour nous. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Que ceux-ci prient pour lui et en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors c'est vrai que ce texte a soulevé beaucoup de questions. Et malheureusement, à mon avis, de peur de se tromper, ben, on l'a mis simplement de côté. Et cela, à mon avis, a affaibli le soutien pastoral aux malades dans les églises. J'aimerais aussi dire tout de suite ici qu'étant donné qu'aucun autre texte du Nouveau Testament ne nous donne explicitement des explications ou des précisions sur plusieurs aspects de ce texte, comme le type de maladie, qu'est-ce que c'est exactement l'onction d'huile ici, eh bien nous devons être prudents et en fait pas trop rapidement être dogmatiques. Donc je vais vous présenter ce que nous croyons, ce que nous vivons aussi actuellement dans notre église locale. Et si d'autres églises vivent un peu différemment, tout en étant dans les balises de ce que le reste de la parole de Dieu nous indique, ne soyons pas des juges, mais plutôt des frères et sœurs attentifs, à l'écoute, pour apprendre. Alors, il y a des choses qu'il faut écarter, par contre. Pour ce qui est écarté, ce texte, en fait, est le fondement pour le sacrement des malades ou l'extrême onction chez les catholiques romains. Ça, par contre, c'est le seul texte, il n'y en a pas d'autre. Et cela relève, en fait, plus de la superstition. Parce que dans ce texte et dans l'ensemble du Nouveau Testament, il n'est ni question d'huile consacrée, ni question de préparer quelqu'un à la mort. Le but recherché ici, s'il est parlé du salut, est aussi un relèvement de la personne dans ce texte. Donc cet élément-là, on va simplement l'écarter. Mais que vous sachiez, c'est ce texte-là la base. Donc voilà, je ne vais pas aller trop longtemps là-dessus. Maintenant, quelques questions. Qui cela concerne-t-il? Eh bien, si vous lisez le texte, quelqu'un parmi vous. Quelqu'un de l'Église, en fait. Le terme « parmi vous » nous permet d'être clair. C'est quelqu'un de l'Église. Voilà, tout simplement. Deuxièmement, quelqu'un qui est malade. Hein? Là, c'est clair. Jusque-là, quelqu'un qui est malade, c'est clair. Et ça. Mais de quelle maladie? Bon, là, ça commence à se complexifier parce que certains disent que c'est une maladie morale ou psychique. Mais ça n'a rien à voir avec la maladie physique. D'autres disent que c'est une maladie physique. Ou bien une maladie spirituelle. Pour nous, en fait, c'est une maladie qui peut être dans différentes directions. Physique, morale, spirituelle. Il peut s'agir de différents types de maladies, d'une personne qui, généralement, ne peut plus jouir de la communion fraternelle ou difficilement, qui a besoin d'aide, en fait, ou alors face à une maladie conséquente. Et ainsi, les anciens deviennent les ambassadeurs de l'Église auprès de la personne malade, qui parfois a même de la peine à prier pour elle-même et pour les autres. Voilà qui cela concerne. Et que doit faire celui qui est malade? Mais c'est écrit dans le texte, c'est très clair. Qu'il appelle les anciens de l'Église. Appelez les anciens. À nouveau, bien des informations en peu de mots. D'abord, c'est le malade qui fait la demande. Ce n'est pas les anciens qui disent « Bon, j'ai un petit flacon d'huile, on va faire une petite onction là. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est la personne malade qui fait la demande. Or, les anciens peuvent enseigner. Ben, je le fais ce matin sur Jacques. On est en train de faire une série de prédications expositions, on en parle. Mais nous n'allons pas vers les malades dire ben, « Maintenant, il faut que tu fasses une onction d'huile, etc. » L'initiative doit venir de celui qui est malade. Et étant donné que ce passage parle du pardon de péché et de confession de péché, le malade est justement, qui est justement arrêté dans son activité habituelle, hein, c'est ça la maladie, elle nous arrête en fait dans notre activité habituelle, pour un temps de réflexion voulu par Dieu. En fait, la maladie, c'est une opportunité pour réfléchir. C'est un temps où Dieu nous permet un arrêt dans notre habitude, c'est plus habituel dans la maladie. Donc on est arrêté pour un temps de réflexion voulu par Dieu pour s'examiner. S'examiner. Parce qu'en fait, est-ce que les maladies peuvent être dues à des péchés? Alors, comme cause première, c'est le péché qui a amené la maladie dans le monde. Ça c'est clair, oui. La cause première, c'est parfaitement clair, c'est évident. Donc il y a toujours quelque part un lien avec le péché qui est venu dans le monde. Mais y a-t-il un lien avec un péché personnel? Eh bien, c'est possible, mais pas nécessaire. Donc, on ne veut ni aller dans la direction de dire « t'es malade, t'as péché », ni aller dans la direction « t'es malade, t'as pas péché ». Non. Tu es malade, comme lorsque tu n'es pas malade d'ailleurs. Hein. Tu es malade, examine-toi. C'est ça qu'on doit faire. La maladie peut être un moyen que Dieu utilise pour nous arrêter, nous pousser à la repentance. Il est donc important de faire un examen de conscience que nous sommes appelés d'ailleurs à vivre à chaque instant. Hein. Et d'ailleurs, dans l'Église, Dieu a mis des choses en place comme la Sainte Cène et ce genre de moments où tout à coup, on doit réfléchir. Est-ce que je suis en ordre devant Dieu? Est-ce que je suis en ordre devant les autres? Hein. Et la maladie fait partie de ces moments aussi où on s'arrête, on réfléchit. On réfléchit et là, Dieu nous montre un péché, qu'est-ce qu'on fait? On le cache. Mais non. Quand Dieu nous montre un péché, c'est pourquoi? C'est pas pour nous dire comme on est mauvais. Il le sait qu'on est mauvais. Il n'a pas besoin de nous montrer ça. S'il nous montre un péché, c'est pour qu'on puisse aller à la croix et qu'on puisse en être libéré. C'est ça. Donc là, si ça arrive, ben, confessons notre péché. Et il arrive parfois qu'en confessant son péché, et je pense que le péché du non-pardon a guéri pas mal de personnes quand elles se sont repenties, il y a des guérisons physiques. Et parfois, vous vous repentez et il n'y a pas de guérison. Vous êtes toujours malade, la même chose, après avoir demandé pardon, même pour un péché. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, vous savez que ce que vous vivez n'est pas en lien avec un péché personnel. Voilà, tout simplement. Moi, je crois au Saint-Esprit. Hein. Moi, je crois qu'il,
qui nous permet aussi de saisir s'il y a quelque chose. Si on est prêt à l'écouter, vous allez, il va vous montrer, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas des choses cachées que vous n'arrivez pas à voir. Il va vous le montrer. On ne sait pas pourquoi Dieu permet des maladies. On ne sait pas. Parfois, alors là, c'est comme les disciples, hein, quand ils ont vu l'aveugle né, ils disent, vous vous rappelez la question qu'ils ont posée à Jésus ? C'est qui ? C'est lui ou c'est ses parents qui ont péché ? Jésus a dit, aucun des deux. C'est pour qu'il soit glorifié. Et il l'a guéri. Voilà une raison de maladie. D'autres fois, c'est peut-être pour protéger de l'orgueil. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 12. Dans tous les cas, nous croyons et vivons notre foi en sachant que l'élément le plus important dans notre vie, c'est notre homme intérieur. L'homme extérieur se détruit. Il va se détruire. Un jour, il va passer, il va disparaître. Même si vous avez une prière de foi, en parlant d'une foi extrêmement grande, mais à un moment donné, la vie, elle s'arrête quand même. Hein. Donc, il faut comprendre que c'est l'homme intérieur qui est invisible à l'œil le plus important que l'homme extérieur. Ça, c'est 2 Corinthiens 5. Ah, on n'a pas vu le passage avant. 2 Corinthiens 5, vous avez ce passage qui le souligne. Ou bien 2 Corinthiens 4. Je vais jeter un œil, comme ça, vous pouvez le noter. Un passage important aussi dans 2 Corinthiens 4, 16 à 5, 1. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées, les invisibles sont éternelles. Donc la maladie devrait toujours nous amener à un temps d'examen de conscience devant Dieu. Et s'il y a un péché, le confesser, le délaisser. C'est un bon moment. Et même n'attendons pas d'être malade pour le faire, hein, évidemment. Ce texte souligne aussi qu'il est naturel et normal d'avoir des anciens dans une église. Et c'est naturel dans ce texte. Il a dit, ainsi quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Voilà, c'est qu'il y en a en fait. C'est quelque chose qui fait partie de l'Église. Et en fait, ces anciens sont au service des membres de l'Église. Celui qui est malade, il ne doit pas se dire « Oh, mais je vais les déranger, ils sont si chargés, ils ont tellement de choses. » Bah, c'est leur travail, ça. Donc, si quelqu'un est malade et qu'il a besoin que les anciens viennent, de dire « Ils sont chargés, je ne les appelle pas », ça ne vient pas de la Bible. OK ? Ça a eu se débrouiller pour qu'ils aient le temps pour venir. Voilà, ça nous responsabilise, hein, c'est clair. Mais c'est vraiment ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'est un élément important. Et justement, que doivent faire les anciens ? Ben, c'est très clairement dit. Hein. Il est dit, en fait, qu'ils vont venir. Les anciens doivent répondre à la demande et aller prier avec le malade. Ça fait partie de leur mandat. Alors, l'onction d'huile... Alors je vous le présente comme ceci, est un acte symbolique. Ce n'est ni un acte magique, hein, donc on utilise quelque chose, puis tac, c'est comme une petite magie. Hein. Ce n'est ni un moyen médical de guérison non plus. Parce qu'en fait, si c'était un moyen médical, on devrait un petit peu réfléchir à quel type de maladie on va toucher pour savoir qu'est-ce qu'on utilise pour soigner. Là, il n'y a pas cette notion. Donc c'est une notion symbolique ici. Et ce qui est important de comprendre, on l'a déjà un petit peu vu ce matin, c'est que c'est Dieu qui guérit. Ce n'est ni un acte symbolique, ni d'ailleurs la prière elle-même. Mais ça en fait partie, ça fait partie de ce que Dieu fait et qu'il veut que nous vivions. Mais c'est Dieu qui guérit. Hein, il le fait au travers de toutes sortes de moyens, et même au travers de médicaments, d'opérations, etc. C'est des moyens que Dieu peut utiliser. Donc le fait de pratiquer l'onction d'huile ne veut pas dire qu'on ne prend pas de médecine. Ça veut juste dire qu'on met Dieu en premier dans nos démarches, c'est lui qu'on veut voir agir. Et puis on utilise tous les moyens que Dieu donne. Et certains seront libres d'utiliser certains moyens, d'autres libres d'autres moyens. Ça, c'est une question que Dieu permet à chacun de vivre. Et d'ailleurs, personne ni rien ne peut donner la vie. Hein. C'est que Dieu qui le fait. Au niveau médical, tout ce qu'on peut prendre, c'est quelque part, on peut mettre le corps dans une situation la meilleure possible pour qu'il puisse... développer quelque chose de bon, bien enlever ce qui est mauvais. C'est Dieu qui guérit. Pour certains, l'onction d'huile, c'est un symbole d'action du Saint-Esprit et aucune huile n'est utilisée pendant la prière des anciens. C'est une façon de voir que je respecte, avec une petite condition, pour autant que les anciens vont prier avec les malades en loignant de l'esprit par leur prière. J'ai un peu souci que lorsqu'on est dans la typologie, qu'à un moment donné, on ne va plus visiter. Et en fait, le fait d'utiliser de l'huile, et c'est ce que nous faisons ici dans notre église, nous pratiquons la prière avec l'onction d'huile de façon très simple. Mais en fait, c'est un élément qui nous permet de le vivre en étant face à Dieu. On a quelque chose à vivre avec la personne en comptant sur Dieu. Je vous ai dit avant, le focal de ce texte, c'est la prière. Ce n'est pas l'onction d'huile, c'est la prière. Donc c'est un symbole de l'œuvre de Dieu, premièrement dans le cœur du malade que le Seigneur relève. Et ça c'est le terme relevé qui vient après au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. Donc le terme sauvera, bon, là j'ai dit qu'il faudrait que j'ai 4 prédications ici, mais le terme sauver ici c'est sozo, c'est un terme en fait qu'on peut utiliser sous différentes formes, guérir, sauver, il y a un peu un jeu de mots en fait ici, ok? Par contre, cette notion de relever, on a cette notion de remettre sur pied quelque part, c'est relever dans le sens de vivre d'une manière qui plaise à Dieu, qui permet d'être paisible. Ce n'est pas forcément de plus avoir de maladie, c'est en fait de faire face à la maladie. On est relevé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des personnes qui sont malades et qui sont relevées. Ils ont encore la même maladie, mais ils nous tirent en avant en fait. Avec une conscience pure aussi. Donc Dieu peut guérir le corps, c'est vrai. Mais il peut aussi relever, et on a parlé de l'être intérieur, c'est l'élément fondamental ici, qui nous permet de vivre le temps qu'il nous reste ici pour le glorifier. Donc même si une personne n'est pas guérie, elle est relevée pour être prête à rencontrer son Dieu, à le glorifier, étant justifiée par Christ, lavée par son sang, appliquée par le Saint-Esprit de Dieu. Et en préparant cette prédication de Lévitique, de Jacques 5, il y a Lévitique 14 qui tournait dans ma tête. Pour ça qu'on l'a lu avant, en fait. Parce qu'on y voit quand même pas mal de liens symboliques ici. C'est un texte qui parle quand la lèpre est guérie dans l'Ancien Testament. C'est une notion de guérison de maladie dans l'Ancien Testament. Et puis en fait, on voit qu'il y a aussi là des symboles comme l'huile qui est utilisée pour manifester une purification. Mais on le met à des endroits, ça n'a rien à voir, il n'est pas dit « regardez où il y a eu la maladie », etc. Les endroits sont pour tous exactement la même chose, c'est symbolique. Et c'est intéressant de voir aussi que dans ce même texte, il est parlé d'un sacrifice pour le péché, qui en fait partie dans tous les cas. On ne demande pas est-ce qu'il a péché ou pas péché, ça fait partie. Parce qu'en fait, la maladie en tant que telle a un rapport avec le fait qu'on est touché par le péché, on l'a vu tout à l'heure, qui est venu dans le monde depuis le début du monde. Or, il est vrai que le texte de Lévitique 14 concerne une personne qui est guérie de la lèpre et qui va donc être examinée. Et ce n'est pas une demande de guérison, c'est vrai. Mais ne vit-on pas dans Jacques, en fait, dans ce même esprit de guérison que Dieu va accorder, sachant que l'homme intérieur est notre cible principale et que l'homme extérieur est aussi sous le commandement de Dieu qui sait ce qui est le mieux pour l'homme intérieur. Donc si pour le fait de grandir intérieurement, d'être relevé, il est bon que nous soyons guéris physiquement, nous le serons. Et s'il est bon que nous restions malades pour rester plus proches du Seigneur et grandir dans la sainteté, eh bien Dieu nous fera grandir dans la sainteté. Et c'est ainsi qu'il relève. Si Dieu a donné un symbole à vivre dans Jacques, dans la foi, que Dieu agit selon sa volonté, pourquoi ne pas utiliser ce symbole avec l'huile qui matérialise ce symbole ? Tout simplement, comme l'eau matérialise le symbole au niveau du baptême, ou le pain et le vin dans la scène. Les symboles permettent de saisir qu'il y a une réalité spirituelle que Dieu fait qui nous échappe et que nous ne maîtrisons pas. Alors comment ça se passe dans notre église? Je vous le dis simplement, comme ça vous savez une fois. Alors plusieurs l'ont déjà vécu ici, Mais donc, si un malade parmi les membres de l'Église demande la prière des anciens, bien simplement, les anciens prennent rendez-vous, voilà, pour venir chez la personne. Hein, et tous se préparent devant Dieu. Donc, les anciens et le malade se préparent devant Dieu en faisant l'examen de conscience devant Dieu pour mettre à jour tout péché connu. La malade va aussi méditer, lire le texte de Jacques 5, 13 à 18. Ensuite, bon, jour donné, les anciens arrivent chez le malade, ils prient pour commencer, et ensuite ils lisent le texte de Jacques 5, 13 à 18, et puis on passe un peu à travers, il est un peu expliqué. Et puis, on demande au malade s'il a fait son examen de conscience, s'il a des péchés à confesser, et là nous vivons un temps de prière et de confession. Et ensuite, eh bien, nous prenons un temps où nous versons un peu d'huile, généralement sur le front de la personne. On prie pour la personne en posant nos mains sur son épaule. Et c'est tout. Enfin, c'est pas tout. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas nous qui agissons, mais c'est très simple, en fait. Et généralement, d'ailleurs, la prière pour les anciens, pour les malades, non, la prière des anciens pour les malades, est annoncée à l'Église. On le fait toujours plus parce que pour nous, ça, c'est l'Église, en fait, qui est appelée à prier pour les malades. Et puis c'est annoncé, on l'a déjà fait dans le groupe de prière, dans un canal d'annonce, etc. Dans le but que toute l'Église prie pour le malade, c'est la prière qui est le moyen que Dieu a donné pour guérir, pour rétablir, pour remettre sur pied. Alors, ayant parlé du pardon des péchés pour le malade, cela fait penser à Jacques. Je vous ai dit que Jacques, c'est domino, hein. Donc, il dit là qu'il appelle les anciens, la prière la foi s'ouvra le malade, le Seigneur le relèvera, s'il a commis des péchés, il sera... Ah, les péchés, pardonnés. Ok, ah ben, verset 16, il dit, ah ben, on va parler de la confession, là. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc là, il est plus juste dans cette situation-là, ben, il est en train de parler généralement, il dit, bah oui, pardon des péchés, mais en fait, c'est pas que pour cette situation-là, c'est dans toute l'Église. Alors, je vous avais dit que je ne pouvais pas prendre beaucoup de temps pour ce sujet-là, mais j'aimerais vous donner une clé très importante. En confessant nos péchés, il nous faut avoir une chose en tête. Si vous n'avez pas ça en tête, ce n'est pas très bon. Donc, si vous êtes parti dans vos pensées, il faut revenir maintenant, là. Donc, en confessant nos péchés, ayons en tête l'évangile de Jésus-Christ auprès de qui nous allons pour tout péché. C'est très important. On ne confesse pas juste nos péchés, voilà, j'ai un péché, je vais vers quelqu'un, j'y confesse, et puis voilà. Non, c'est l'évangile de Jésus-Christ que j'ai en tête, parce que nous péchons d'abord contre Dieu, et nous savons qu'il ne nous rejettera jamais, jamais. Jamais, lorsque nous allons vers lui demander pardon pour un péché, il nous rejettera. Il a une grâce phénoménale. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un, je me dis, mais quand je commence à réfléchir à la grâce de Dieu, ça m'époustoufle. Comment c'est possible que ça ne s'arrête pas? Si moi, je devais me faire grâce, j'aurais déjà arrêté. Hein. Mais lui, il n'arrête pas. Et ce n'est pas pour m'encourager à pécher, pas du tout. Ça ne m'encourage pas à pécher. Mais il connaît nos faiblesses. Et si nous avons péché contre quelqu'un, il est important de confesser son péché à cette personne, de s'en repentir. Si notre péché a un impact sur notre famille ou sur l'Église, il est important de le confesser, de s'en repentir. Et dans ce cas-là, ben, c'est péché à quelqu'un d'autre, ce n'est pas une option. Ça, c'est, on peut reprendre tout l'artisan de paix par rapport à cela. Et parfois, il est aussi important de confesser des péchés privés, des choses que personne n'a vues. Parfois, il est important de le faire aussi à des personnes, à un petit groupe, pour s'en décharger, se mettre en redevabilité, recevoir un soutien dans la prière, et avoir des témoins de notre repentance, pour que lorsque Satan vient et dit « t'as péché », tu dis oh, « je te donne son numéro de téléphone, il était là, hein, je me suis repenti ». Alors évidemment, là, il y a un élément que j'aimerais quand même nous prendre avec nous, c'est que la Bible est cohérente, et on ressort des directives qui vont avec. Hein, lorsque nous confessons nos péchés, je pense que c'est bien de nous rappeler Éphésiens 5, versets 3 et 4, qui dit « que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. » Donc lorsque nous confessons un péché, il n'y a pas besoin d'expliquer tous les détails de tout ce qu'on a fait. J'ai commis un meurtre dans mon cœur en ayant de la haine pour cette personne. C'est suffisant. J'ai pas besoin d'expliquer toutes les pensées que j'ai eues. En fait, je vais faire du mal peut-être même à la personne qui est en face de moi quand je le dis. Dans le domaine de l'impureté sexuelle également, on peut dire j'ai péché en commettant adultère dans mon cœur ou en ayant pratiqué la luxure ou la débauche, c'est suffisant. Pas besoin de commencer à expliquer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez salir la personne en face de vous. Ce n'est pas le but. Et le faire pécher. Confesser son péché, ce n'est pas mettre l'autre dans une situation difficile. Mais vous savez, quand on les nomme les péchés, j'ai menti. Vous avez déjà fait ça? Ouais, j'ai dit quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Ce n'est pas la même chose. Hein. Tout à coup, vous dites, j'ai menti. Tac, ah ouais, j'ai menti. Waouh. On n'aime pas se voir dans ces, Mais c'est comme ça qu'on doit se voir, parce qu'on est délivré de cela, les amis. Mes chers frères et sœurs, c'est à la croix, on doit y aller avec nos péchés, les vrais. On ne doit pas les excuser. D'accord? Voilà, je pense qu'on a compris l'importance de confesser ses péchés en apprenant à le faire en étant clair, tout en n'entraînant pas notre interlocuteur dans le péché. Ainsi, nous allons prier les uns pour les autres. On y revient à cette prière. C'est le fondement. En fait, quand on confesse nos péchés, ce n'est pas juste pour confesser nos péchés. On n'est pas dans le 20 minutes où on dit un peu tous les potes hein, de tout ce qui ne va pas bien. Ce n'est pas ça l'idée. C'est de prier les uns pour les autres. Et pas seulement pour la réussite des examens, pour l'amélioration de la santé ou pour chercher un travail. C'est bien, il faut continuer à prier pour ces choses-là. Mais prions aussi pour lutter ensemble contre le péché. Et ainsi, soyons guéris ou soyons sauvés, hein, si on reprend ce texte ici. Et nous arrivons au dernier point que j'avais annoncé tout au début. Manifester notre foi en priant de manière agissante et en étant juste. Alors, regardez verset 16. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Puis là, bon, on revient avec Élie. Hein. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc là, ici, on a 4 choses dans la simple phrase. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Bon, on recommence une prédication avec 4 points. On pourrait. On va faire très vite ici. La prière, on en a déjà beaucoup parlé. C'est quoi la prière? Alors, on n'en a même pas vraiment défini, en fait. La prière, c'est la communion avec Dieu. La commune union, si vous voulez. La communion avec Dieu, c'est parler à Dieu dans un cadre relationnel respectueux et de confiance. Et on pourrait dire que cette relation, c'est comme un jardin à cultiver. Donc, la prière, c'est communier, être en communion avec Dieu. Et Jacques parle d'une prière agissante ou fervente. Ça signifie que la prière n'est pas inactive. Hein, je ne prie pas juste, je prie pour que mon voisin aille mieux, il a un petit problème à son pied, et puis en fait, maintenant je lui donne une compresse pour son pied. Je prie pour lui et je lui donne, vous voyez? C'est une prière agissante. Je ne prie pas pour que des personnes annoncent l'évangile, et puis moi je n'ouvre jamais la bouche à ce propos. En fait, prier pour quelque chose pour lequel nous pouvons entrer dans l'action de Dieu et ne pas agir, c'est se moquer de Dieu. Prier pour quelque chose pour lequel nous pouvons entrer dans l'action de Dieu et ne pas agir, c'est se moquer de Dieu. C'est comme quelqu'un qui reçoit un magnifique linge de cuisine bien sec et qui sent bon, parce qu'en fait, il a demandé à être équipé. Okay ? Vous voyez, un linge de cuisine, ça va, vous connaissez ça, hein ? Ok. Et puis lorsque la vaisselle mouillée arrive et qu'elle doit être séchée, ben qu'est-ce qu'il fait cette personne? Il se met à genoux devant l'égouttoir et il demande à Dieu d'envoyer quelqu'un pour sécher la vaisselle et il part sans essuyer la vaisselle. Non, la prière efficace est la prière agissante. Prière agissante du juste. Waouh! Bon, qui est juste ici? Alors, je vais dire autrement. Parce que là, je ne savais pas comment répondre, en fait. Alors, qui est juste par lui-même? Là, j'ai la réponse. Là, je peux le dire. Personne. Personne n'est juste par lui-même. Je peux l'affirmer parce que c'est la Bible qui l'affirme. En fait, il n'y a pas un seul juste parmi les hommes. Celui qui est venu de Dieu, qui est Dieu et homme, lui seul est juste. Et lui seul peut avoir en fait une prière efficace. Vous rappelez, hein, la prière agissante du juste, qui est juste par lui-même? Nobody, se dire personne.
Ça, on est embêté là. Mais c'est Jésus-Christ qui est juste. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, vous commencez à le comprendre. Hein? On n'a pas de pouvoir en nous-mêmes, mais par lui, en fait. C'est par Jésus-Christ que nous allons prier. Hein? Donc, nos prières doivent passer par Jésus pour être efficaces. Nous n'avons pas le pouvoir par nous-mêmes de venir vers Dieu et de lui indiquer ce que nous voulons avec notre petite liste de commissions en disant à la fin « s'il te plaît » tout en ne pensant pas vraiment qu'il fasse ce qui lui plaît. En fait, la magnifique phrase de Jacques qui est au centre de notre passage, « la prière agissante du juste a une grande efficacité » ne nous serait pas accessible en dehors de Jésus. C'est pas accessible, cette phrase. Elle est magnifique, cette phrase. Mais en dehors de Jésus, elle n'est pas accessible. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui efface nos péchés quand nous les confessons et nous en repentons. C'est par sa justice que nous pouvons nous adresser à Dieu, nos besoins. Et le juste Jésus-Christ par qui nous prions va quelque part les amener au Père. C'est pour ça, en fait, que dans les prières, très souvent, vous entendez des gens qui disent « au nom de Jésus-Christ ». C'est pas juste une formule, enfin je ne l'espère pas, c'est pas juste une habitude, non, c'est une réalité. Parce que si ce n'était pas une réalité, Jacques 5, 16 ne serait pas possible. La prière agissante du juste a une grande efficacité, c'est parce que nous passons au travers de Jésus-Christ. Et on pourrait dire, c'est lui qui intercède pour nous auprès de Dieu. C'est ce médiateur qui, par qui passent toutes nos prières. Il y a un petit filtre aussi. Moi, je pense qu'il y a un petit filtre. Il y a un petit filtre bienveillant. Parce qu'en fait, il va amener au Père tout ce qui correspond à sa volonté. Ce qui ne correspond pas à sa volonté, il va nous aider à cheminer pour apprendre à connaître sa volonté et arriver comme Élie. Élie qui était comme nous, avec un Dieu qui est le même que celui d'Élie. Et quand il est entré dans la volonté, c'est pour ça que c'est très étonnant. Enfin, moi, j'ai trouvé l'illustration assez étonnante. Mais en fait, l'illustration, c'est que Dieu a dit qu'il ne pleuvrait pas, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu. Quand Dieu nous dit quelque chose qu'il va faire, mais allons-y, prions, ça fait partie de cette œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Vous savez, quand il a dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour nous, la prière en fait partie. Vivons-la à fond. Et nous aspirons que Dieu, en fait, nous donne beaucoup de moments de prière dans lesquels on entre dans sa volonté et on voit ensuite que Dieu agit selon ce qu'il nous a mis à cœur, parce que nous faisons partie de cette œuvre. Il n'attend pas, celui qui vit selon Dieu n'attend pas que ces moments lui tombent dessus. Ah, il a préparé d'avance des moments de prière, bon, ben, j'attends, quoi. Il me téléphonera quand il voudra que je... C'est pas comme ça que ça marche, hein. Quand il est dit qu'il a préparé des choses à l'avance, c'est pas qu'il nous téléphone pour dire « Ah, demain, tu devrais faire ça ». Non, c'est « Tu as une responsabilité aujourd'hui de te mettre à l'œuvre à prier. » Ça fait partie de ton œuvre. Tu y vas, tu dis « Ah, ben c'est ce qu'il avait préparé ». Il nous permet même des moments extraordinaires de vivre avec lui. Et c'est en entrant dans la volonté de Dieu, en agissant, en fait, que nous entrerons dans ce lien avec Christ et que nous aurons une grande efficacité en Christ. Bon, si je devais résumer le passage du jour, dans Jacques, on pourrait utiliser un mot. Lequel ? Prier. Yes ! Prier ! Voilà, on a résumé. Bon, il y a d'autres choses, évidemment, hein, mais prier personnellement par des paroles et des chants, hein, que celui qui souffre prie, que celui qui a la joie chante. Prier en demandant à d'autres de prier pour soi. Prier pour les autres en confessant nos péchés. Et prier en agissant, en étant justifié par Christ, collé à Christ, si vous voulez, de qui nous désirons avoir la pensée pour voir une œuvre efficace de Dieu. Et la prière aura une grande efficacité. Élie était un homme comme nous, avec le même Dieu que nous avons encore aujourd'hui. Donc n'hésitons jamais à prier en cherchant à le faire dans la volonté de Dieu. Et on va justement s'adresser à Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, nous sommes exhortés, encouragés, motivés, heureux de pouvoir nous adresser à toi. J'aimerais te prier de nous aider à comprendre que c'est un privilège qui dépasse ce qu'on peut imaginer de pouvoir nous approcher de toi par la prière. Et nous voulons te dire merci parce que tu l'as aussi spécialement prévu pour les moments de souffrance, où tu nous entends et où tu réponds à nos prières, en ton temps, à ta manière, pour que notre être intérieur grandisse, celui qui est éternel en fait. Et donne-nous la grâce de vivre l'être extérieur avec patience, avec ce désir, non pas premièrement de vivre dans une santé parfaite au niveau de notre corps, tout en souhaitant que nous ayons la santé, mais donne-nous, Seigneur, lorsque nous l'avons, de l'utiliser d'une manière qui t'honore, qui aide ceux qui ne l'ont pas, qui aide ceux qui sont dans la souffrance. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et tu vois aussi toute la responsabilité des anciens dans ce texte. Eh bien, Seigneur, j'aimerais te prier au nom des anciens que tu nous donnes, Seigneur, aussi la grâce, la force de vivre humblement ce que tu nous dis dans ta parole, de vivre ce que nous comprenons jusqu'à maintenant, d'être attentif à ce que tu nous fais apprendre encore dans l'avenir, de manière à ce que ton Église puisse grandir dans la foi et t'aimer toujours davantage. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.